Les médias, pour moi, c'est des chroniqueurs, des animateurs.
Derrière, il y a plein de choses, des techniciens, des micros.
Interclass.
Ça part de ma génération.
J'ai ma propre opinion, je pense que je réfléchis.
Bonsoir à tous, Interclass donc jusqu'à 21h, presque une heure, pour vous faire écouter les reportages effectués par un des établissements de notre dispositif, qui en compte 7 en tout, aller sur le terrain, tendre son micro, poser des questions pertinentes et rapporter une information fouillée, vérifiée, étayée. Nos apprentis journalistes ont beaucoup travaillé tout au long de l'année et ils espèrent, nous espérons, que le résultat vous plaira.
Interclass saison 4, c'est un truc de ouf.
Let's go
sur France Inter.
Le même bonbon, s'il est rose ou s'il est bleu, avec le même goût, la personne préfère le bonbon rose. Parce que rose donne plus envie de manger, paraît-il.
Bah voilà, on va savoir ce que vous en pensez. C'est un extrait d'un de vos reportages ce soir. Ils sont donc tous autour de moi, dans ce grand studio au 6e étage de Radio France. 24 élèves, 5 sont pour le moment autour de la table, mais ça va tourner. Tous viennent de Grigny, en banlieue parisienne, du collège Jean Villard. Bienvenue à la 3e 4.
Ouais.
Interclass, le dispositif d'éducation aux médias et à l'information de France Inter, c'est parti!
L'égalité des sexes.
La liberté d'expression.
La colère.
Les gilets jaunes.
Le partage.
Vivre en France.
Vivre en France.
Vivre en France.
En 2019.
Et comme dans chaque émission, la séquence banlieue de vie avec vous, Fanny Léonore Crouzet.
On arrive à Grigny, 30 km au sud de Paris. À l'entrée de la ville, un panneau. Grigny, ville amie des enfants. 52% de la population à Grigny a moins de 29 ans. C'est vrai qu'elle a quelque chose d'enfantin, la Grande Borne. 3000 HLM pour reloger les classes populaires d'Île-de-France. Elle est née en 1967, la Grande Borne, la cité de l'enfant. Grands ensemble pour, dès l'enfance, être ensemble. Émile Ayot, son architecte, a ajouté par touche des couleurs criardes. Bleu, jaune, rouge, rose. Les couleurs ont un peu fané avec le temps. Reste l'herbe verte, des pelouses, et le gris, nuance béton, des jeux pour enfants, des rues. Émile Ayot, en 1972, pose la question « Pourquoi aime-t-on habiter certaines places ?» C'est pas qu'elles soient belles, mais elles sont aptes à être habitées. Elles enveloppent, elles sécurisent, elles différencient. De l'extérieur, on dit souvent qu'elles isolent, qu'elles enferment. Aïcha, collégienne de 15 ans, a grandi à l'intérieur de la Grande Borne. Pour cet enfant de la cité, la Grande Borne, un labyrinthe cocon, tout en rond, englobe et réuni.
Bonjour Aïcha. Tu m'as attendu pendant une demi-heure parce qu'il y avait des bouchons.
Oui.
Tu m'en veux pas trop?
Non.
Bon alors, où tu m'emmènes?
En fait, là, on est au Minotaure. Et là-bas, c'est aussi le Minotaure, mais c'est un endroit où on est quasiment tout le temps, en fait.
Le Minotaure, c'est un quartier?
Oui.
On est à 200 mètres du collège. Est-ce que tu peux décrire?
On est en plein milieu de la Grande Borne. Et autour, il y a des bâtiments, il y a des fleurs. Les bâtiments, ils sont en forme de serpent. Ils font 3 étages. Ils sont bleus, blancs et marrons.
Toi, tu habites où?
Au Méridien.
Et donc, pourquoi tu m'emmènes pas au Méridien?
Parce qu'en fait, ils aiment pas qu'on les filme. Ils aiment rien, en fait. Enfin, tout ce qui est en rapport avec les caméras, les micros, tout ça, ils aiment pas. Je sais même pas pourquoi ils aiment pas, mais ils aiment.
Parce qu'il y a des préjugés, peut-être?
Ouais, je pense, parce qu'en fait, à un moment, il y avait eu une émission de journalisme sur Enquête d'action et ils avaient passé Grigny, en fait. Et ils ont montré que les côtés négatifs.
Et donc, ils parlaient de quoi dans cette émission?
Bah, des jeunes de cité, de la drogue, les courses-poursuites, tout ça, en fait.
Et est-ce que toi, tu le constates, ça, quand même, à Grigny, ou pas?
Bah, ça se voit. Tous les jeunes, en fait, ils sont quasiment tous gentils. Hein. C'est juste avec la police, et voilà.
Justement, tu devais me présenter quelqu'un, là. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, en fait, la personne, comme elle a été attrapée et emprisonnée, elle a pas pu venir.
Et ça arrive souvent, ça?
Bah, beaucoup. Tu t'habitues tous les jours à voir la même personne. Genre, du jour au lendemain, elle est plus là, ça fait quelque chose, quand même. Mais après, tu t'habitues, tu te dis, de toute façon, elle va revenir, donc...
Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça?
Ah, ça, c'est leur problème, hein. Ça, c'est leur problème. Il y en a, ils ont fait exprès d'arrêter les études. Il y en a carrément, je les connais, ils ont arrêté les cours en 5e pour vendre n'importe quoi, en fait. Parce qu'en fait, la plupart, c'est parce qu'ils ont des problèmes personnels, en fait. La plupart, c'est où leurs parents, ils sont morts et ils sont tout seuls, ils doivent s'éduquer tout seuls. Et du coup, des petits, ils doivent essayer de gagner de l'argent, trouver de l'argent. Mais vu qu'ils sont mineurs, ils vont pas avoir de métier. En fait, aux banlieues, en fait, faut pas se fier aux apparences. En apparence, nous, on a l'air méchant, tout ça, mais En fait, tout le monde ici, tous les jeunes ici, même s'ils font les grands, les cahiers, tout ça, la plupart, c'est des fragiles. Hein.
Comment tu expliques ce que c'est un fragile?
La plupart, des fois, tu vas chez eux, tu les vois devant un film, ils pleurent. J'ai déjà vu un jeune ici, il est en train de raser le Titanic et il a pleuré. En fait, ici, il faut être ouvert d'esprit. Il faut être ouvert. Je suis très ouvert d'esprit, en fait.
Et tu veux le rester?
Ah oui.
Je trouve ça très joli ce que tu dis, Aïcha. Il ne faut pas se fier aux apparences. On se fie beaucoup aux apparences dans la vie, d'une manière générale, non?
En fait, pour eux, Grigny, c'est que des jeunes, des délinquants, mais pas du tout, en fait.
Quand tu dis pour eux, c'est quoi? Pour la télévision, les journalistes, les gens en général?
Les gens qui ne sont pas de Grigny, en fait. Enfin, la plupart des gens qui ne sont pas de Grigny, Grigny, c'est des délinquants, des violences, et on brûle des voitures, tout ça, mais non.
Bah, peut-être parce que quelquefois c'est arrivé et que c'est ça qu'on a montré. Mais on n'a pas montré tout le reste, que ça. Voilà.
Par exemple, quand il y a des travaux, quand il faut des nouveaux parcs, tout ça, ils ne montent pas. Tu ne vas jamais voir un journaliste venir à Grigny. Ouais, Grigny, ça a changé de ça. Ils sont là que quand il y a des trucs négatifs.
Et du coup, ça donne quoi? Ça donne un peu honte de l'endroit où on habite?
Pour nous, ce n'est même pas de la honte, en fait. On se dit, mais ils n'ont rien compris, en fait. Pour eux, nous, on est méchants. Il n'y a que des violences, la drogue, tout ça, mais non.
Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire alors pour qu'on comprenne?
Bah que les gens, faut qu'ils viennent vraiment faire un tour à Grigny et qu'ils voient qu'on n'est pas comme ça. Qu'ils voient notre vrai visage aussi.
Interclasse,
c'est de la bombe
sur France Inter.
Premier reportage, donc, c'est l'image dans l'art culinaire. Assez parlé, on écoute.
Bloquer les settings sur cette lumière-là, parce que sinon, ça va faire des variations. Ça sera immontable.
Médias Social Food forme des élèves sans diplôme et sans emploi. En 4 à 8 semaines, on leur apprend les métiers de l'image culinaire avec pour unique outil le téléphone portable.
Le même bonbon, s'il est rose ou s'il est bleu, avec le même goût, la personne préfère le bonbon rose. Parce que rose donne plus envie de manger, paraît-il.
Mathilde Delécotet est la fondatrice de l'association.
On a créé Média Social Food parce qu'on a senti que dans le marché, il y avait une demande d'image dans le food, de plus en plus grande, et une image plus souple, avec une agilité pour les réseaux sociaux, et que des jeunes qui sont très rapides avec leur téléphone portable pouvaient être formés à faire de l'image, vidéo et photo, avec leur téléphone portable, et répondre à ce marché.
Sur place, une dizaine d'apprentis photographes ont tout le matériel nécessaire. Il travaille dans une vraie cuisine à moitié professionnelle, explique Mathilde Delécotet.
Le lieu se constitue d'un bureau où on a plusieurs postes de travail avec des ordinateurs. Puis après, on a un studio avec une cuisine, puisqu'on cuisine. Et donc, vous allez voir ici, à droite et à gauche, un peu plus loin, vous allez voir qu'il y a un set, donc un plateau de vidéo qui est monté. Et la cuisinière Astou qui va se prêter à l'exercice de cuisiner pour que les jeunes puissent filmer la recette.
Au programme du jour, un gâteau au chocolat et au butternut. Sur le plateau, il y a tous les ingrédients et les ustensiles nécessaires. La vidéo finale de la recette doit durer une minute maximum.
J'ai pas la planche, j'ai pas ça par exemple. Je calcule dans mon cadre. J'enlève ma planche, je mets tous les ingrédients, on tourne.
D'accord, ok.
Cut.
Les élèves utilisent les ingrédients sur le plan de travail et changent le point de vue des caméras sous la supervision d'Ayane Koudou, formatrice au sein de l'association.
Comment on prépare les élèves? Bon, on leur donne du matériel, ils ont un iPhone, ils ont un pied, des manettes pour mettre l'iPhone, ils ont de la lumière, ils ont un micro et on fait des exercices pratiques. On sort, on fait des interviews, des petits reportages, on fait pas mal de photos, on prend des plats en photo.
En collaboration avec les élèves Astouker, une chef cuisinière réalise un gâteau qu'ils doivent filmer.
Je vais mettre un petit peu de sucre, 10 grammes de sucre, je vais mettre 5 grammes de beurre et une pincée de sel. Je vais faire bouillir tout ça, réduire jusqu'à ce que le butternut soit prêt à mixer.
En cuisine, la photo et l'esthétique deviennent essentielles aujourd'hui. Erwan Lemonnier, l'un des élèves, l'a bien compris.
Imaginez dans un film qu'il y ait l'acteur sur un fond blanc et rien d'autre. Ça ferait moche, il n'y aurait pas d'histoire. Bah, vous, en fait, c'est un peu plus d'artifice pour que l'œil en fait, aille partout et voit en fait, tout ce qu'il veut.
Après leur formation pratique d'un mois au sein de l'atelier, les élèves effectueront 6 semaines de stage et leur avenir professionnel semble assuré. Le marché de la photo culinaire est en plein développement et leurs images mettent l'eau à la bouche.
Pour ce reportage dans de l'image dans l'art culinaire, merci à Demba Dengo, Aboulaye Diop, Nour Messaoudi, Nolan Fémus et Eurydès Texera. Alors, vous avez tous travaillé avec Maryse Berger, qui est étudiante à l'Institut pratique du journalisme. Elle ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais elle vous a laissé un petit message. Écoutez-le bien parce qu'il est plutôt sympa.
Déjà, un grand bravo pour le travail que vous avez accompli cette année. Vraiment. En septembre, au début, une grande majorité d'entre vous n'avait jamais parlé au micro. Moi, je pense tout particulièrement au groupe que j'ai suivi pendant cette année, à Demba, à Eurydès, à Aboulaye, à Nolan et à Nour, qui au début étaient plutôt intimidés, hein, mais finalement, vous vous êtes très très bien débrouillés en reportage. Félicitations pour ça. Je pense que vous pouvez être vraiment fiers du résultat. En tout cas, moi, je suis super fière.
Ben voilà, j'imagine que vous êtes content, non? Vous êtes fiers de du travail accompli, non?
Oui.
Vous avez pu goûter des plats quand vous étiez là-bas? Le gâteau au chocolat, vous n'avez pas pu en goûter un bout?
Oui, on a goûté à la fin, on est parti vers la partie pâtisserie.
Ah oui, avant de rentrer, ils nous ont ramené dans... Oui, ils font la cuisine, ben après ils nous ont passé des croissants aux amandes, etc. Tout ça.
Et de la brioche aussi.
Et de la brioche, c'était bon?
Oui, c'était très bon.
Oui, c'est très bon.
Ouais. Vous allez quelquefois au restaurant?
Oui.
Et vous prenez des photos des plats que vous mangez? Parce que ça, il y a beaucoup de gens qui font ça.
Oui, pour montrer à nos amis.
Ouais. Vous aimez bien manger d'une manière générale, là, ma question se...
Oui.
Oui. Bah, alors Aboulaye, il avait du mal à parler au départ, mais là maintenant il est parti. T'aimes bien manger, qu'est-ce que tu manges?
Les fast-foods, surtout.
Que les fast-foods? Tu sais que c'est pas forcément top pour la santé, ça.
Après, chez moi aussi, je mange des pâtes, du riz, tout ça, crêpes, tout ça.
C'est basique, mais ça
peut être... Que je cuisine.
Tu cuisines toi?
Que ma mère aussi cuisine des fois.
Ouais, mais c'est basique, mais ça peut être absolument délicieux.
Bah oui, c'est bon.
C'est important de prendre du temps pour manger. Scrooti, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je suis plutôt fruit de mer. J'aime bien plutôt le saumon, les crevettes. C'est mieux de manger lentement parce qu'on peut bien réfléchir à qu'est-ce qu'ils ont mis dans le plat. On peut bien deviner ce qu'il y a dedans. On peut déguster bien le goût et tout.
T'as tout compris, on savoure. Oui. Est-ce que vous regardez les émissions sur la cuisine à la télévision?
Cauchemar en cuisine.
Non, mais le meilleur pâtissier.
Ah, vous les regardez vraiment alors?
Oui. Souvent.
Ouais. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Action Bronson? Parce que lui, il était d'abord chef cuisinier, puis il est devenu rappeur. Et il fait des émissions et il apprend notamment comment faire le meilleur sandwich du monde. Vous n'avez pas vu ce clip?
Non.
C'est sur YouTube, hein. C'est absolument génial. Il parle beaucoup de nourriture et ses clips sont aussi costauds que lui parce que lui, il est bien enrobé. But motherfuckers forget till I'm back up on the set and every motherfucking jump shot wet. Same outfit every day like a cartoon. They'll never find you in a shark suit and there will never be a part two. Shit, you're looking at some motherfucking art, boo. Two punts from the inhaler got me feeling like Morris Taylor. Two kisses on the cheek for my tailor. I got the soul of an Amazon healer. Better be sure to put them cameras on. Turn dreams into real shit. Yeah, I might be sick. Sitting courtside, I'm likely lit. Draw blood, I'm already made. But little man, I cut your face like wedding cake. When the chef brought the duck to the table, that shit was shining like an angel. I never trust a dude named Angel.
long steel full fist, turn him to an angel. The sky opened up and down came me. Young AB flowing in a Jag from the 80s. Tan like I just left Haiti. Looking like I had mad plastic surgery. They turned Bam Bam Chinese, and that's fine by me. Shit, I need some time to realign my chi. So bitch, please pass that bomb by C before I get upset.
You don't even know me. You don't even know.
Action Bronson sur France Inter dans Interclass. Je pense que ça vous a moyennement plu à certains, beaucoup à d'autres. Aïcha, t'en as pensé quoi?
Ça va, mais il y a trop d'insultes. J'aime bien qu'il y a des insultes, mais quand c'est en français, pas quand c'est en anglais.
Ah, les insultes, on peut les dire en français?
Non, ça dépend desquelles. Hein.
Ouais. Mais là, tu les as. Ça veut dire que tu comprends bien l'anglais?
Ah, moi,
tu
je comprends que les insultes en anglais. Hein.
Interclass.
Ça va, ça se passe.
Sur France Inter.
Deuxième reportage donc de l'émission. Certains d'entre vous se sont donc intéressés au sommeil. Et le sommeil et les écrans, ça ne fait pas toujours bon ménage.
Le centre du sommeil est accolé à la cathédrale Notre-Dame. Émilie Pépin nous attendait à l'entrée de l'hôpital. Elle est chef de clinique assistante et médecin spécialisé dans le sommeil. Avant tout, elle nous a expliqué avec des exemples concrets pourquoi on a besoin de dormir.
Comme un téléphone portable, si vous le chargez, il va être à 100%. À partir du moment où vous allez le débrancher de son chargeur, il va perdre en batterie. Et ben nous, à partir du moment où on se lève le matin, on va perdre en énergie et en batterie tout au long de la journée. Et l'autre phénomène, c'était le processus qu'on appelle circadien. Donc circadien, c'est effectivement quelque chose qui se répète sur 24 heures à chaque fois. Et là, c'est les hormones qui vont jouer un petit peu. Sur 24 heures, on a des sécrétions qui vont être différentes, qui fait qu'on va être très réveillé le matin, parce qu'il faut être réveillé le matin. Et le soir, on va avoir des sécrétions qui vont nous donner envie de dormir. Et c'est quand on est à 20% de batterie et que notre cerveau, en plus, envoie le signal qui dit « il faut aller se coucher, il faut dormir, je suis fatigué, j'envoie toutes les hormones qui disent que je suis fatigué », c'est à ce moment-là qu'on va s'endormir.
Les écrans ont une influence sur le sommeil et surtout leur lumière.
La lumière, elle va notamment jouer sur ces hormones-là en les perturbant. On va toujours être à 20% de batterie, mais on va avoir un signal qui nous dit « c'est pas le moment d'aller se coucher ». Et donc on va être un peu tout perturbé.
Alors,
Laurent Drouet est un technicien du sommeil. Il s'occupe des examens qu'on fait passer aux patients du centre. Il est passionné par la lumière. Comme introduction, il nous a parlé de la couleur de cette lumière.
Je suis obligé un peu de passer par là dans l'explication de la suite pour parler des écrans. Retenez qu'en tout cas, vous avez peut-être déjà regardé un écran d'ordinateur ou de télé très près. Puis vous avez vu que c'est plein de petits rectangles les uns à côté des autres, un vert, un rouge, un bleu. Puis bon, quand on s'éloigne, ben en fait, c'est la proportion de chaque couleur sur chaque rectangle qui fait que ça va faire telle ou telle couleur.
Bleu, rouge, vert, sur ces trois couleurs qui constituent la lumière, une est particulièrement importante quand on parle de sommeil.
Le bleu, des trois couleurs primaires, le bleu, le vert, le rouge, le bleu, c'est la couleur par excellence qui dit à votre œil, il fait jour. S'il fait jour, c'est pas le moment de dormir. C'est pas le moment de dormir, donc on sécrète pas de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Quand vous regardez un écran le soir, surtout les portables, vous avez plein de bleus, et vous êtes en train de dire à votre cerveau, c'est pas l'heure de dormir. Vous dites à votre œil, il fait jour, donc s'il fait jour, faut rester éveillé.
Selon l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, en France, une personne sur trois est concernée par un trouble du sommeil. De plus en plus d'études scientifiques montrent que les écrans qu'on regarde avant de dormir ont des conséquences sur notre sommeil.
Le matin, on a beaucoup de mal à se réveiller avec le réveil. On arrive en cours et puis on commence à vraiment se réveiller qu'à la fin de la matinée. Parce que votre pic hormonal, lui, bah, c'est pareil, il s'est décalé et puis bah, faut qu'il redescende. Devant une télé encore, on est plus loin et on est passif, mais quand on est devant un téléphone, en général, on est plus actif. On est en train de répondre aux copains, on est en train de chercher des trucs. Donc il y a aussi le côté intellectuel qui fait qu'on est stimulé. Donc j'écoute pas mon sommeil qui me dit pourtant, ouais, j'ai envie de dormir. Donc je pousse et je m'épuise.
Aujourd'hui, nos téléphones ont une fonction qui nous permettrait de filtrer les lumières bleues, celles qui seraient les plus néfastes pour notre œil et notre sommeil. Laurent Drouet s'intéresse aux évolutions technologiques, mais il reste méfiant.
Ok, c'est sévère, mais de se dire, non, il y a un moment, il faut arrêter les écrans et l'ordinateur. Non, c'est bon, maintenant on a le filtre, on peut aller jusqu'au bout. L'humain est arrivé à un niveau de connaissance qui est formidable, mais en même temps on oublie la base. On oublie qu'on a mis des millions d'années à devenir ce qu'on est. Une mutation génétique, je parle bien chez l'homme, ça dépend des espèces, c'est de l'ordre de 2 millions et demi d'années pour avoir un nouveau caractère, un vrai nouveau vrai caractère. Et nous, en 50 ans, on perd 1h30 de sommeil. Donc ça veut dire que c'est notre hygiène qui a changé et qui n'est pas bonne.
En quittant le centre du sommeil, l'équipe médicale nous a donné quelques conseils. S'écouter et aller se coucher quand on a envie de dormir. Faire du sport, si possible, tôt le matin. Et surtout éviter de regarder notre téléphone ou notre ordinateur le soir.
Bon, personne ne s'endort. Hein. Merci à Aïcha Sibi, Myriam Zebich, Kevin Bégarin, Jason Marie Sainte et Chérine Boukantar pour leur travail. Ils ont été en cela épaulés par Julien Baldacchino de France Inter qui vient de nous rejoindre à cette table. Jason, est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez choisi et comment vous avez choisi ce sujet du sommeil ?
Parce qu'on s'est dit que c'était important d'en parler.
Mmh. Aïcha, comment ensuite, à partir du moment où vous êtes mis d'accord sur un sujet, comment est-ce que vous avez procédé ?
On a commencé à faire des recherches sur Internet. On a chacun fait un mini texte pour savoir si tout le monde pensait quoi du sommeil. On a cherché des noms d'hôpital ou de cliniques spécialisées dans le sommeil. On a trouvé l'Hôtel Dieu. On les a pas appelés tout de suite en fait. On est en train de continuer nos recherches. On est en train de réfléchir à des idées de questions qu'on pourrait poser à l'hôpital où on irait. Et après, c'est là où on les a appelés. Ils étaient d'accord.
Bonsoir Julien Baldacchino.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous, c'est la première année que vous participez à Interclasse ?
Oui, c'était la première fois. Oui.
C'est une belle surprise ?
C'est une très belle surprise. J'ai été enchanté de travailler avec ces élèves et surtout de toutes les discussions qu'il y a eu autour du travail. Donc, finalement, voilà, je me suis plié à ce dont ils avaient envie. On a pas mal discuté. Effectivement, le sommeil, c'est le sujet qui est le plus ressorti, qui a le plus mis tout le monde d'accord. Et ensuite, plus on a creusé, plus ils ont creusé la question, plus on s'est tous rendu compte ensemble que c'était vraiment intéressant, qu'il y avait vraiment des choses intéressantes à dire.
Donc une fois que le dossier a été travaillé, vous avez donc pris ces contacts, Aïcha le disait, vous arrivez à l'hôpital, à l'Hôtel Dieu avec eux, on entend les cloches de Notre-Dame parce que c'est juste à côté de Notre-Dame, c'était avant ou après
C'était deux jours après.
C'était juste, ça venait de se produire, donc c'était... Notre-Dame était quasiment fumante encore ?
Alors, en tout cas, c'était un peu l'aventure pour toute l'équipe parce qu'on s'est retrouvé à devoir accéder à l'Hôtel Dieu qui était donc sur l'île de la Cité avec tout le secteur complètement bloqué. Donc, c'est pas facile de faire passer une classe entière, enfin un groupe d'élèves entiers en leur disant on est journaliste mais on vient pas du tout pour Notre-Dame. Donc, ça a été le début de l'aventure, ça a été ça. Ça a été rentrer jusqu'à l'Hôtel Dieu et ensuite, par contre, on a été très très bien accueilli par les médecins et par tout le personnel du centre du sommeil.
Alors là, moi je voudrais savoir, je pose la question, je ne sais pas, peut-être à Aïcha, mais pas qu'à elle, qu'est-ce que vous avez appris au cours de ce reportage ? Est-ce que vous saviez d'abord qu'on avait comme ça un cycle, qu'on appelle le cycle circadien, c'est-à-dire qu'on a une horloge interne qui finalement devrait être en principe en accord avec l'horloge terrestre, avec nos montres ?
En fait, c'est elle qui décide à quelle heure on est fatigué et à quelle heure on n'est plus fatigué. Genre, on a appris qu'il y avait plein de troubles du sommeil, genre l'hypersomnie.
Ah, l'hypersomnie, c'est le contraire, c'est les gens qui dorment trop. On dit qu'on dort plutôt pas assez, mais là, c'est les gens qui dorment trop.
L'apnée du sommeil, ouais. Les gens qui n'arrivent pas à respirer pendant qu'ils dorment. Après, des gens qui n'arrivent pas à dormir à cause des écrans. Genre, s'ils regardent un écran avant de dormir, ils n'arrivent plus à dormir.
Vous, autour de la table, là je m'adresse à tout le monde, est-ce que c'est votre cas ? Vous êtes sur vos écrans jusqu'à des pas d'heure et donc est-ce qu'éventuellement... Grâce, est-ce que tu peux nous dire ?
Non, enfin, juste avant de dormir, je regarde par exemple la télé, mais sinon j'utilise pas trop mon téléphone avant de dormir.
La télé, tu crois pas que c'est un peu un écran d'une certaine manière ?
Si, mais c'est moins... Ouais. Il est moins près de mes yeux que mon téléphone. Mmh.
Chérine ?
Moi, je m'endors plutôt tard à cause de mon téléphone, je pense, puisque... C'est pas seulement le soir que je suis dessus. Je pense que ça m'empêche de dormir le soir.
Donc quand tu dis que tu t'endors tard, ça veut dire que tu t'endors à quelle heure ?
Environ 2-3 heures du matin.
Ah oui, carrément. Tu sais que moi, le week-end, quand je vais travailler, c'est pratiquement l'heure à laquelle je me lève. On pourrait s'appeler à ce moment-là. Moi, je te dirais bonne nuit, tu me dirais bonjour. Non, mais c'est très tard. Et ton réveil, il sonne à quelle heure le matin pour te lever ?
7h30.
Mais attends, mais t'es folle, tu dors 5 heures par nuit ?
Oui.
Mais c'est pas assez.
Je sais.
Tu sais qu'on peut avoir plein de troubles à cause de ça.
Oui, je sais.
Ils vous l'ont expliqué, ça ?
Oui. On peut avoir des manques de concentration. On peut même s'endormir en cours.
Mais tes parents, ils font quelque chose ? Enfin, ou je sais pas, ils vivent les deux avec toi ?
Non.
Tu vis avec qui, alors ?
Je vis avec ma grand-mère.
Tu vis avec ta grand-mère. Et ta grand-mère, alors, elle va pas râler de temps en temps, te dire arrête ?
Si, des fois, elle me prend mon téléphone, mais j'ai la télé.
Et tu continues avec la télé ?
Oui.
Ben c'est sympa parce que alors, là, je m'adresse au professeur, auquel je vais aussi demander de se présenter, de dire ce que vous faites au sein de cette classe et de votre établissement.
Donc, bonsoir, Bénédicte Peraldo, je suis le professeur référente du projet et je suis professeur de français.
C'est la quatrième année que vous participez à Interclasse, ma chère Bénédicte, donc
oui.
Vous commencez à avoir vos marques là.
Oui, j'ai cette chance, ça fait 4 ans oui, que je participe au projet.
À côté de vous, sur votre gauche, Camille Honoré, professeur également.
Donc bonsoir, moi je suis la professeure documentaliste du collège Jean Villard et le binôme de Bénédicte Peraldo sur le projet Interclasse depuis 4 ans.
Donc vous, quand vous les avez en cours, bon peut-être que les cours ça commence, y a des personnes qui disent ça commence un peu trop tôt le matin, ok. Mais enfin quand même, ils sont complètement endormis après 5 heures de sommeil, mais comment elles tiennent ?
Ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait c'est souvent les 2 premières heures du matin où ils sont quand même en fait le plus concentrés. Et où je trouve qu'ils font un travail qui est le plus efficace. Et souvent, après la récréation de la matinée et voire l'après-midi, là, c'est quand même des horaires qui sont beaucoup plus compliqués.
Là, il y a des trous d'air. Azrouti.
Moi, je m'endors vers 22h. Moi, en fait, dès que c'est 19h, mon cerveau commence à se déconnecter, donc je deviens très fatiguée. Donc, mon téléphone, je l'utilise avant que je mange et après, j'essaie de lire un livre et après, je m'endors.
Mais vous devriez tous aller habiter avec Strouti, mais elle est formidable, c'est ça qu'il faut faire. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir si c'est une souffrance de vous réveiller quand vous n'avez pas assez dormi, est-ce qu'il n'y a pas un plaisir de s'endormir ? C'est délicieux de commencer à avoir les paupières un peu lourdes, etc. Puis on est un peu dans un état cotonneux. Non, c'est pas un plaisir ?
Si.
Ah, bah, Srouti, elle dit que oui.
Quand t'as une famille où il y a beaucoup de personnes chez toi, tu peux pas dormir.
Oui, c'est vrai ça.
Tu peux pas. C'est pas possible.
C'est vrai.
Surtout quand t'essayes de faire une sieste la journée, il y aura toujours quelqu'un pour te déranger. Surtout que moi, comme il y a des grands chez moi, t'arrives pas à dormir.
Chez les journalistes, Julien Baldacchino, là aussi, on a des horaires quelquefois, il faut s'adapter. Hein.
On est souvent en proie à un décalage en fait, d'horaires. On peut se lever très tôt effectivement pour aller travailler un matin sur une matinale ou même sur un horaire un peu plus tôt dans la journée. On peut terminer des journées très tard. Donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir un rythme de vie qui est calé. Et une des choses qui nous ont été dites lorsqu'on était à l'hôpital pour ce reportage, c'était que ce qui était important, c'était d'être régulier. C'était pas seulement de dormir suffisamment, c'était aussi d'essayer de dormir à des horaires réguliers, de se coucher, effectivement, par exemple, tous les jours autour de 22h. Ça, c'est une bonne chose. Et pour nous, effectivement, en rédaction, c'est loin, loin d'être gagné. Moi, je suis très mauvaise élève à ce niveau-là.
Voilà, elle, je sais pas si elle se couche tôt ou pas, elle est rappeuse, elle est américaine, et elle s'appelle Lizzo.
C'était Juice de Lizzo.
Interclasse.
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 Sur France Inter. Alors, on a parlé de cuisine, on a parlé de sommeil. Maintenant, on va rester à l'Hôtel Dieu, le groupe Sommeil a travaillé, hein, pour évoquer avec un autre groupe les blouses unisexes. Le poids des femmes dans la société n'est pas ce qu'il devrait être. À la maison, dans l'espace public, au travail, il y a toujours des inégalités. Dans certaines professions, ça s'améliore tout de même. Le milieu médical, par exemple, de plus en plus de femmes médecins, de plus en plus d'hommes qui sont infirmiers. Ça rééquilibre la mixité et la parité.
Lila est infirmière diplômée d'État. Elle a travaillé dans de nombreux services hospitaliers depuis une trentaine d'années. Âgée aujourd'hui de 59 ans, elle se souvient qu'au début de sa carrière, son métier était très peu mixte et très inégalitaire.
Quand je suis arrivée dans le service, c'était en 83. Effectivement, la corporation des infirmières et des femmes dans le monde hospitalier, on était 90% de femmes dans le service. Donc en 36 ans, j'ai vu quand même l'évolution se faire, c'est qu'on a eu de plus en plus de collègues masculins qui sont arrivés dans le service. Il y a 35 ans, les hommes principalement que nous, infirmières, on côtoyait, c'était surtout les médecins. Moi, j'ai connu la fin, ce qu'on appelle du mandarinat, où c'était le grand patron avec des médecins hommes, des internes hommes. Et c'est vrai que la femme dans le milieu hospitalier, c'était soit la surveillante générale, soit l'infirmière. La femme était très effacée quand il y avait des staffs, on ne parlait pas. Alors que maintenant, quand il y a des staffs, médecin, pas médecin, moi je pose des questions. Donc là, j'ai vu quand même l'évolution, d'accord ?
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est égalitaire ?
De plus en plus. Pour travail égal, on a le même salaire.
La féminisation de la profession de médecin a fait évoluer les mentalités. Mais les stéréotypes ont la dent dure et le sexisme reste. Laurent Drouet est manipulateur en radiologie, un domaine où il y a davantage d'hommes que de femmes. Il raconte ce qu'il voit et entend régulièrement.
Il y a des clichés que je peux avoir de gens de l'extérieur. Ah, tu travailles à l'hôpital ? Alors est-ce que c'est vrai que les infirmières sont nues sur leur blouse, par exemple ? Et ça fait des années qu'on me pose la question. Ou, gros cliché, quand on est un homme, on est médecin, et quand on est une femme, on est infirmière. Et la preuve, on a plus de mal à dire une doctoresse et un infirmier.
Est-ce que pour vous, une femme qui travaille à l'hôpital est pareil qu'un homme qui travaille à l'hôpital ?
Pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. On doit être égaux, j'aimerais qu'on soit égaux au niveau juridique, au niveau respect.
Est-ce qu'il y a une discrimination entre les hommes et les femmes ?
Dans le milieu médical, ça peut être très masculin dès qu'il s'agit de monter très haut. Et donc, le fait d'être professeur, chef de service et d'être chirurgien, est-ce que c'est parce qu'on ne permet pas aux femmes d'y arriver ou c'est parce que ce ne sont pas des postes qui intéressent les femmes ? Si une femme veut être chirurgien et qu'on l'empêche de l'être parce que ce n'est pas un homme, là, il y a un problème.
Les métiers de la santé attirent toujours plus de femmes. Aujourd'hui, une écrasante majorité des étudiants en médecine sont des étudiantes. Et diplômées, elles peuvent se spécialiser dans toutes les disciplines, comme l'expliquent deux médecins, Enora Guillot et Émilie Pépin.
C'est vrai qu'aujourd'hui, au concours de première année de médecine, il y a à peu près plus de 60% des femmes qui sont reçues au concours de première année. Il y a vraiment des changements avec des femmes qui choisissent toutes les spécialités autant que les hommes.
Est-ce pas difficile avec la vie de famille ?
C'est pas toujours facile, mais je pense qu'il n'y a pas forcément de différence avec les autres métiers.
Est-ce que dans votre profession, vous avez des réflexions sexistes ?
Pas plus que ça, c'est plus de l'humour carabin, mais peut-être ce serait plus de la part des patients éventuellement. C'est souvent, ah bah je te laisse, je suis avec l'infirmière, et puis des questions c'est, excusez-moi madame, quand est-ce que je vois le médecin ? Sans avoir compris que c'était moi le médecin et que c'était moi qui allais prendre les décisions et faire les soins.
Est-ce que les salaires sont pareils ?
En tout cas, les salaires des internes et des chefs de clinique, c'est des grilles salariales. Donc, je pense pas qu'il y ait de différence homme-femme.
En tout cas, à l'internat, on gagne exactement la même chose au centime près.
Malgré les avancées, l'égalité homme-femme dans le milieu médical en matière de responsabilité, de débouché et de salaire n'est pas encore atteinte. Est-ce le machisme qui freine la parité ?
Et oui, est-ce le machisme qui freine la parité ? En voilà une bonne question. Merci à Aminata Niakate, Vivien Saravan, Justice Sandanon, Helmut Asser Salahidine et Sruti Bhagavan, accompagnés par Nadine Epstein de France Inter, que je salue. Bonsoir Nadine.
Bonsoir.
Vous allez nous raconter comment vous avez travaillé, mais d'abord, Aminata, un mot du choix du sujet, qui n'est pas par hasard.
Alors au début, on avait décidé de... On était quand même dans le sexisme, dans le domaine professionnel, on va dire, mais c'était plus centré dans la musique, dans le rap spécialement. Mais on a eu des soucis, donc il y a plusieurs enregistrements qui ont été annulés parce qu'une fois, il y a eu que le rendez-vous il a été annulé, et l'autre, c'était parce que notre quart, Il y avait un problème dans la réservation, donc on n'a pas pu le prendre.
Oui, vous n'avez pas eu de chance. Hein. À deux reprises, pouf, vous avez été stoppé. Alors, voilà. Finalement, la troisième
donc,
était là-bas.
Voilà. Au final, on est parti avec le groupe du sommeil à l'Hôtel Dieu. Et on a interviewé là-bas des personnes qui travaillent dans le service.
Le service du sommeil
Oui.
À l'Hôtel Dieu. Là, sur le sujet, donc, homme-femme.
Voilà.
Alors, est-ce que l'égalité homme-femme, c'est un sujet, déjà, en principe, que ce soit dans le domaine professionnel, mais ailleurs aussi, est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur? Alors, malheureusement, les garçons du groupe ne sont pas là, il n'y a donc que des filles pour en parler, mais ce n'est pas grave. Srouti.
Il y a des choses que les hommes peuvent faire, mais les femmes ne peuvent pas faire, en fait.
Vous savez déjà ce que vous voulez faire plus tard?
Secrétaire.
Secrétaire. Aïcha, qu'est-ce que tu veux faire? Même si tu n'as pas travaillé dans le groupe, tu as le droit de parler. Va.
Secrétaire.
Aussi? Secrétaire de quoi?
Médical.
Médical. Et toi, Srouti?
Non, je ne vais pas faire la même chose, mais secrétaire dans des travaux comme bureautique, des informatiques, des secrétaires dans ce genre-là.
Si je vous dis le mot féminisme, est-ce que ça vous dit quelque chose aux unes et aux autres?
Alors, Aminata. C'est... En fait, c'est le fait de vouloir que les femmes elles soient sur le même piédestal que les hommes et qu'elles aient les mêmes droits qu'eux.
Et tu penses qu'il y a des pays où c'est plus difficile que dans que d'autres?
Les pays qui sont en Afrique, c'est beaucoup plus compliqué déjà, parce que souvent la femme elle est soi-disant obligée de être une femme au foyer, de s'occuper de ses enfants et des ménages. Et il y a aussi des pays en Asie, par exemple Philippines, pareil, ils pensent pareil.
Alors qu'est-ce qu'elles doivent faire les femmes de ces pays? Pour essayer de changer les choses?
Ben, elles n'osent pas, parce que sinon, si elles essayent de se révolter, elles peuvent avoir des peines. Du coup, ben, elles ne peuvent pas lutter contre ces inégalités-là. Et ben, elles ne peuvent pas travailler, quoi.
Donc, elles sont condamnées à reproduire la même chose sur leurs filles, tu penses?
Je pense, oui. Mais après, je pense qu'il y a certaines personnes... Il y a certaines filles qui vont à l'école, et vu qu'elles travaillent bien, elles ont l'opportunité de faire les métiers qu'elles veulent.
Et toi, par exemple, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard?
Justement, un métier dans le médical. Je pense que si je travaille bien, je peux devenir ce que je veux, quoi.
Et qu'est-ce que tu voudrais alors? Tu voudrais être infirmière? Tu voudrais être médecin? Tu voudrais
peut-être médecin ou radiologue.
Un radiologue, c'est un médecin?
Oui, voilà, médecin. Mmh.
Pourquoi radiologue?
Parce que j'aime bien le fait de déchiffrer ce qu'ils voient, de scanner.
C'est important d'avoir un métier qui vous plaît?
Oui. Parce que sinon, on n'a pas la volonté de se lever tous les matins.
Nadine Epstein, vous avez travaillé avec ce groupe hein, toute l'année. Racontez-nous comment ça s'est passé.
C'est des jeunes qui ont, pour chercher le sujet sur lequel ils voulaient travailler, finalement, ont regardé ce avec quoi ils étaient embarrassés à leur âge. Et donc, c'était effectivement les rapports filles-garçons. Et on a profité d'une sortie avec un autre groupe pour continuer, pour voir cette question du féminisme et de la place des femmes dans le milieu médical où se déplaçait un groupe.
Alors, je suis désolée parce qu'on va encore écouter du rap, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce que le rap raconte, c'est Booba. Alors là, c'est un classique, il est français d'origine sénégalaise, vous le connaissez?
Oui. Je ne connais pas.
Qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai pas baillé, fait des dégâts. Tyson Gribord de Bombardier. J'vais te casser le dos, pas te mailler. Ne tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà le bal, m'en baissé sur le palier. Comme autre, tu mets au, j'suis médaillé. Vamonos, négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très sale. Ta Allah, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler. Ton enfant, il sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai bataillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. J'suis pas en plein de thieboudienne.
Même noir, je pourrais rougir de haine. L'esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie, descendez là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Serre-moi un shot de Mandela. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert de client en cage? Envoie le H, les millions cash. Faut mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R. J'ai fait ce qu'il fallait, fallait. Sénégal, DKR, génération boule, fallait, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moula l'a poussé à tailler, tailler. Passe-moi les masses à Mamakosa, FL, Omar, Salvatrocha. Oh, négro n'a pas vraiment de shot. Le boule est plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hypercute de gauche à droite. Tyson Gribord de bombardier, j'vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré. Elle a gâté le roi. Première roue arrière et des mers. J'ai changé le port. Je suis pirate donc loup de mer. Je peux te montrer l'écran.
C'était Booba DKR.
Interclass, c'est trop bien.
Sur France Inter.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, ici présent Aruna. Bienvenue sur Interclass, Collège Jean Villard. On va rencontrer les jeunes mineurs isolés qu'ils ont traversé l'océan ou la mer.
Le thème général, c'était vivre en France en 2019. Et du coup, nous, notre thème, on a choisi les jeunes mineurs isolés. Parce qu'il y en a de plus en plus en France. Et du coup, on s'est demandé comment les associations faisaient pour les loger, pour les nourrir, pour s'occuper d'eux.
Dernier reportage donc de cette interclasse, l'accueil en France pour les mineurs isolés.
Bonjour, je m'appelle Grace. Bienvenue sur Interclasse Collège Jean Villard.
C'est parti. C'est l'atelier Interclasse sur France Inter.
Avec notre groupe qui est constitué d'Abdoul, Aruna, Ayoub et moi. On a pris le car ce matin. On va aller interviewer les jeunes mineurs isolés.
Demander comment ils vivent aujourd'hui.
On va leur demander comment ils vivent, si ça se passe bien, s'ils sont bien accueillis. Là, on vient de rentrer dans la bibliothèque.
Donc alors ici, on a la bibliothèque Couronne. C'est une bibliothèque dans laquelle il y a des jeunes qui peuvent venir prendre des cours de français le jeudi et le vendredi de 10h à midi. Donc c'est que des profs bénévoles qui viennent. Il n'y a pas que la bibliothèque de Couronne, il y a aussi Louise Michel qui fait ça pour que les jeunes puissent avoir un peu de cours de français parce que c'est la base, mais ça ne remplace pas l'école parce que c'est que 4 heures par semaine et c'est des profs bénévoles et ce n'est pas des conditions optimales pour apprendre. Donc voilà, c'est pas comme l'école.
Est-ce que à côté de ça, ils essayent d'aller à l'école ?
On essaye de faire en sorte qu'ils aillent à l'école, mais c'est très compliqué. S'ils sont pas reconnus mineurs, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école. Puisqu'il faut être reconnu mineur pour pouvoir aller à l'école, c'est-à-dire être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, et soit aller en foyer, soit aller dans un hôtel ou quoi, une famille d'accueil, mais c'est rare, et du coup être scolarisé.
Ceux qui ne sont pas reconnus mineurs, et partout
ils sont refusés, parce qu'il y en a 80% qui sont refusés, et on ne leur donne aucune solution, c'est-à-dire qu'ils sont à la rue. Donc sans rien, sans aucune ressource, rien. Et c'est pour ça que des associations comme Paris d'Exil ou la TIMI ou les Midi de Nuit, essayent de trouver des personnes solidaires pour essayer d'héberger des jeunes comme ils peuvent. Voilà. Mais on est très peu.
Tu viens de quel pays ?
Ouais, je viens de Guinée-Conakry. Mes parents étaient décédés, ça fait longtemps.
Le trajet, ça a pris combien de temps ?
Moi, j'ai passé au Sénégal. Je suis entré direct en Espagne, au pirogue. J'ai fait cinq jours sur l'eau.
Et tu es venu tout seul jusqu'ici ?
Oui, jusqu'en France, ici, je suis venu moi seul.
Et comment t'as fait pour venir d'Espagne jusqu'en France ?
On m'a amené à Valencia. Après, j'ai pris bus là-bas, je suis arrivé à Irun. Après, j'ai pris là-bas bus, j'ai rentré à Paris.
À part le français, tu fais quoi comme cours, comme matière ?
Mathématiques.
Que aimerais-tu faire plus tard dans ta vie ?
L'air là, j'aimerais continuer mes études.
Est-ce que tu aimes bien la capitale Paris et tous les monuments ici ?
Oui, j'aime bien la France.
Plus tard, t'aimerais aller où ? Rester ici ou...
Oui, je voulais rester ici. J'ai fait mon recours au tribunal pour décrire ici. Pour justifier que c'est mon âge.
Depuis 1990, la loi française, en application de l'article 22 de la Convention internationale des droits de l'enfant, stipule que les mineurs étrangers partagent les mêmes droits que les enfants français en danger. En clair, elle oblige l'État à mettre les mineurs à l'abri lorsqu'ils se trouvent seuls sur le territoire sans la présence d'un adulte et leur famille même élargie.
Pas du tout respecté, voilà, à mon avis. Donne ton avis, s'il te plaît.
Non, c'est pas respecté.
Voilà, fin du reportage. Merci à Abdoul Rakim, Ugur Chef, Aruna Keïta, Ayoub Charchar, Grâce Nsatou, épaulé par Antoine Chao, producteur à France Inter. Alors, Ayoub et Grâce, vous avez particulièrement travaillé sur ce sujet. D'abord, dites-nous comment votre choix s'est déterminé dans votre groupe là-dessus. Grâce, tu commences ?
Au début, on se demandait quel thème on voulait faire. Et après, notre journaliste nous a proposé ça et c'est le thème qu'on a gardé, quoi.
Alors, quand on arrive, qu'est-ce qui vous a frappé, vous, la première fois où vous êtes entré là ?
Quand on est rentré dans la bibliothèque, on a vu plusieurs mineurs isolés. Ils étaient assis. Dehors, il faisait froid, donc ils viennent plus souvent au chaud. Ils étaient allongés.
Vous êtes allé les voir ?
On en a rencontré trois.
On n'a pas donné leur prénom exprès, ce qu'on entend, parce que comme ils sont mineurs, on ne donne, donne pas leur prénom. Vous les avez sentis comment ?
On voyait qu'ils étaient un peu stressés, mais qu'ils étaient quand même... ils étaient quand même contents qu'on les interroge. Et aussi, on voyait qu'ils nous enviaient un peu dans le sens où on avait une meilleure situation qu'eux.
Vous vous imaginez, vous, dans un pays lointain, sans personne de votre famille ?
Non. Si j'étais tout seul, j'imagine pas ce que j'aurais fait.
Il faut du courage ?
Oui.
Ah oui.
Beaucoup. Alors ça, c'est... qu'est-ce qu'il dit ? C'est Chérine qui dit ça.
Oui.
C'est pas parce que t'as pas travaillé sur le reportage que t'as pas le droit d'avoir un avis. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, de ces mineurs comme ça, isolés, qui vivent quelquefois à la rue, d'ailleurs, hein, s'ils sont pas pris en charge ?
Ben, il faut beaucoup de courage pour être... tout seul, sans connaître personne. Peut-être même ne pas parler la langue du pays où on est. Et de vivre dehors.
Parler la langue, c'est déjà un des premiers combats à avoir.
Oui.
Ouais. Vous pensez dans quelle situation il faut être pour arriver à prendre cette décision-là, d'être poussé et de se dire, tant pis, j'y vais.
Tous ceux qui sont venus, ceux qu'on a interrogés, ceux qui sont venus de leur pays, c'est parce que ils avaient soit un problème familial ou des problèmes dans leur vie, mais les autres, ceux qui n'ont pas de problème, ils sont restés là-bas.
Et il y a un problème avec les mineurs, c'est qu'il faut qu'ils puissent prouver qu'ils sont mineurs, puisque évidemment il y en a qui veulent évidemment se faire passer pour mineurs alors qu'ils le sont pas. Mais là aussi il y a cette évaluation qui est terrible, non ?
Oui.
Grâce.
S'ils n'ont pas leurs papiers, ils doivent aller à la Croix-Rouge pour prouver leur
t'allais dire leur innocence.
Oui. C'est intéressant. Pour prouver qu'ils sont pas majeurs. Et si selon la Croix-Rouge ils estiment qu'ils sont majeurs, ils les laissent comme ça et ils leur donnent un papier pour qu'ils aillent au juge.
Aïcha, Aminata, vous avez quelque chose, vous avez entendu ce reportage avec nous, puisque vous êtes resté autour de la table. Qu'est-ce que vous en pensez, Aminata ?
Je pense qu'il faudrait que beaucoup de monde s'intéresse à ce sujet, parce que la plupart du temps, les gens ils ont une mauvaise image des étrangers qui viennent d'arriver en France, et, qui disent qu'ils prennent leur emploi, leur argent, et qu'il ne leur reste plus rien pour eux. Mais en fait, c'est qu'ils ont quitté leur pays parce qu'ils avaient des problèmes. Et qu'ils n'avaient pas d'autre solution, en fait. Donc, il faut les laisser une place dans la société.
Aïcha ?
Il ne faut pas les laisser à l'abandon. Enfin, après, il y en a, des fois, ils viennent, des fois, tellement ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de nourriture ou quoi, ils vont voler. Mais en fait, les migrants, c'est des gens comme les autres. C'est ceux qui viennent d'un autre pays.
C'est drôle ce que tu disais, parce qu'en commençant cette émission, je note que tu disais un peu la même chose des personnes qui habitent Grigny, en disant, mais voilà, nous on est comme les autres, quoi. Pourquoi on nous regarderait de travers ?
Parce qu'on va dire ceux qui viennent de campagne, surtout les personnes âgées, vont dire, Ah, mais c'est des Grignois. Ah, il y a que des Noirs et des Arabes, des trucs comme ça.
C'est quoi quelqu'un d'âgé?
Genre les... Ouais, ceux qui sont nés... Ceux qui... Les vieux Français.
Ils ont quel âge, les vieux Français?
Ceux de...
Ils ont quel âge, ça m'intéresse.
Le truc de 50 ans, 60 ans, ça.
Ah là, ouais, même. Ça c'est lui, vraiment très vieux, 50-60.
Ils viennent, ils disent, c'est ah, c'est des bougnoules, ah, c'est des... c'est des bambous, là.
T'entends souvent ça?
Ah oui, surtout les... Ceux qui ont pas d'origine, enfin, ils sont que français-français.
Et on a un devoir, vous pensez, de protection, d'attention déjà, et de protection, quand, d'autant plus qu'il s'agit de mineurs? Sauti, tu veux parler?
Ben, je trouve qu'ils ont besoin de quelqu'un qui leur aide à donner, à apprendre des choses du bon côté, comme le respect, faire des choses du bien pour cette cité, un truc comme ça.
Donner de son temps, Aminata, Aïcha, Ayoub, c'est important?
Oui.
Pourquoi?
Parce qu'on a tous besoin de l'attention des autres, parce qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul à chaque fois. Il y a toujours un moment où on a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre.
Ayoub?
Pour les jeunes mineurs isolés, ils ont besoin de beaucoup d'attention. Et puis, ils ont notre âge. Ils peuvent pas travailler parce qu'ils ne sont pas majeurs. Et puis, je crois que garder les jeunes mineurs isolés, c'est une loi en France qui n'est pas très bien respectée.
Ils sont drôlement mûrs, Camille Honoré, dans cette classe, non?
Je trouve que c'est même là assez émouvant et bluffant de les entendre parler d'engagement, parce que parler d'engagement à 14 ans, c'est pas forcément... À mon avis, ça a été aussi un petit électrochoc.
Bénédicte Peraldo.
Moi, j'avoue que j'ai eu la chance de partir avec ce groupe pour ce reportage, et c'était vraiment un moment vrai. Ces jeunes, ils ont raconté des histoires qui étaient quand même, je pense, très difficiles. Mais ils se sont livrés, ils ont eu confiance en nos élèves, et j'avoue que tout le groupe a su écouter. Et c'est vrai que cette année les a quand même beaucoup changés, et qu'ils ont quand même beaucoup réfléchi à tout ça, et qu'on est très contente, je pense, de les voir comme ça.
Grigny, c'est une ville qui est très bien. Il y a beaucoup de parcs, et en plus, il y a beaucoup de quartiers. Et en plus de ça, il y a plein d'immeubles où il y a des gens qui déménagent. Donc ceux qui veulent déménager à Grigny, ils peuvent venir.
Eh ben oui, ils peuvent venir. C'était Lamine, le petit frère d'Aïcha, c'est ton petit frère. Et il a bien raison, parce qu'à l'entrée de Grigny, il y a un panneau avec écrit « Ville amie des enfants », parce que c'est un partenariat avec l'UNICEF. Merci à Lauriane Toulmont qui a réalisé cette émission. Merci à Fanny Léonore Crouzet, chargée du dispositif d'interclasse. Merci à Charles Leca qui a assuré la prise de son, et à Muriel Pérez pour la programmation musicale. Merci à tous les élèves du collège Jean Villard de Grigny, ainsi qu'à vos professeurs. À la semaine prochaine.
Ouais.